Et je cède la parole à Julie Sermon et Raphaël Fleury.
On aura juste un micro pour toute la journée, c'est ça?
Oui.
Alors, on fait un petit couple très parfait avec Raphaël, on va se partager le micro. On verra après comment vous entendez bien, parce que je n'ai pas la même puissance vocale que Pierre. D'accord. Nous avons le vent. En introduction de cette journée, et avant de convier les intervenants à nous rejoindre, on va vous présenter avec Raphaël un petit peu les objets des enjeux et les objets du cycle de recherche qui va nous occuper. Et donc, Pierre le rappelait, un cycle qui va durer pendant 3 ans, vu le vaste champ qui va nous occuper. Hein, les censures, les propagandes et les résistances, c'est un temps plus que raisonnable. Avec cette idée, donc vraiment dans la poursuite de la scène des chercheurs, à savoir stimuler, impulser de nouvelles recherches. Et en l'occurrence, investir un champ qui pour l'instant demeure assez peu exploré, qui est celui donc des relations que les arts de la marionnette ont pu entretenir avec les pouvoirs, alors pouvoirs politiques évidemment, mais aussi les pouvoirs religieux, les pouvoirs économiques, les pouvoirs judiciaires, etc. Sachant que notre ambition n'a pas de limite et que nous aimerions poser ces questions au fil de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde. Évidemment, 3 ans, on n'arrivera pas à clore ces questions, mais l'idée c'est de rassembler en fait un certain nombre de chercheurs et de les inciter à travailler sur ces questions. Donc il y aura en tout 6 manifestations publiques, hein, les journées professionnelles de Clichy en février et la scène des chercheurs a priori début juin, mais peut-être c'est pas forcément non plus la date idéale, on verra. Et puis donc dans l'intervalle de ces manifestations, on a réuni un beau groupe de recherche dont vous trouverez la liste en fait dans le dossier qui vous a été présenté, enfin qui vous a été confié, sachant donc que ces chercheurs sont non seulement de différentes nationalités, et on avait vraiment envie de sortir du champ vraiment franco-français de la recherche sur les arts de la marionnette. Et puis aussi des chercheurs qui ne sont pas exclusivement des chercheurs en art du spectacle, mais aussi des chercheurs en littérature, en histoire. Pour l'instant, c'est essentiellement les deux, littérature, histoire, que nous avons rassemblés.
Alors la première étape de ce cycle de recherche, qu'on a débuté en février avec les journées professionnelles de Clichy, vise à examiner les mythes et réalités de la liberté des théâtres de marionnettes, pour ce qui concerne leur confrontation aux formes d'interdiction et de censure au fil de l'histoire. Que ces formes de censure ou d'interdiction portent sur les conditions d'exercice de la profession ou sur le contenu des spectacles eux-mêmes, puisqu'il s'agit de choses un petit peu différentes. Alors pour faire un petit rappel historique en quelques mots, il faut rappeler que le mot de censure est attesté en français depuis la fin du XIVe siècle, et qu'il désignait d'abord une mesure disciplinaire prise par l'Église contre un de ses membres. Et puis, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, le terme a désigné une action qui se porte plus seulement sur un individu, mais sur des idées. Et la censure est désormais la condamnation d'une doctrine, d'un texte ou d'une œuvre prononcée par l'Église. Donc on le voit, on part au départ d'une notion rattachée aux religieux et aux droits canons, mais dès ces époques-là originelles, de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, les travaux des historiens ont montré que, bien avant que ne soit instituée une censure préventive officielle confiée à un lieutenant général de police, donc ça a été le cas à partir de 1706, le pouvoir royal, avant ça déjà, avait exercé des formes d'interdiction et de censure répressive ou préventive. Et c'est cet ensemble de contraintes tour à tour exercées par les autorités politiques, religieuses, royales, impériales ou républicaines selon les époques, qui étaient parfois en contradiction les unes avec les autres, ce qui était source de liberté aussi, la contradiction des différentes interdictions. C'est ça qui définit le champ et les limites de la liberté dramatique, limite avec laquelle les spectacles ne cessent de jouer. Alors, pour ce qui concerne les théâtres de marionnettes, on a eu une première réunion au mois de décembre dernier qui nous a permis de définir un petit peu une liste de paramètres à prendre en compte pour comprendre quelle serait la spécificité ou pas des censures et interdictions portant sur la marionnette par rapport aux autres types de spectacles. Alors, il y a certains éléments qui relèvent de l'histoire politique, économique et sociale. Les spectacles de marionnettes étant un phénomène public, ayant eu lieu sur la place publique, la liberté des spectacles de marionnettes était soumise aux réglementations visant au maintien de l'ordre. Et où l'enjeu, c'était pas tellement le contenu des spectacles, mais c'était le fait qu'il y ait un attroupement, et du coup, il pouvait y avoir des interdictions portant sur ce phénomène d'attroupement, d'assemblement. Et là, on voit dans ce cas-là que les situations des spectacles qui sont joués dans les salons ne font pas l'objet des mêmes types d'interdictions ou de censure que ceux qui sont joués sur la place publique. Il y a d'autres éléments pour comprendre cette histoire-là qui relèvent de l'histoire des idées. Selon le contexte moral, philosophique ou religieux, le propos des spectacles, mais aussi simplement le fait d'animer l'inanimé ou de représenter l'être humain, rencontre des échos divers et pose plus ou moins de problèmes aux autorités. Et puis, il y a des éléments qui relèvent de l'histoire esthétique. Du Moyen-Âge à nos jours, les marionnettes ont entretenu des rapports mouvants avec le théâtre, la littérature et les autres arts. Et la question de la spécificité de la liberté des théâtres de marionnettes et des entraves qu'on lui oppose doit être posée par rapport au statut que chaque époque leur octroie. Alors, par exemple, pour comprendre ça, au Moyen-Âge, la marionnette n'est pas un genre de spectacle différencié des autres types d'art dramatique. Et donc, elle subit les mêmes régimes d'interdiction ou d'autorisation que pour tout type de spectacle. Par contre, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est là que se met en place une hiérarchie des genres, avec la notion de privilège royal qui va mettre en avant certains types d'art par opposition à d'autres. Et à cette époque-là, les arts de la marionnette sont le dernier rang de l'échelle. Et il s'avère que par rapport aux interdictions, c'est ça qui les a protégées. Elles étaient tellement mineures et indignes d'intérêt, que ce soit de la part des théoriciens que pour les censeurs, qu'apparemment on aurait une liberté quasi absolue des théâtres de marionnettes au XVIIe et XVIIIe siècle, alors que les genres nobles étaient beaucoup plus surveillés dans leur contenu. Et du coup, on se demande ce qui s'est passé à partir de la Révolution française, pour ce qui concerne la France, pour que de nouveau les spectacles de marionnettes fassent l'objet d'une surveillance et d'interdiction et de censure. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont redevenues perturbatrices alors qu'elles ne l'étaient plus aux époques précédentes? Donc c'est une des questions principales à laquelle on cherchera à répondre au cours de nos recherches. On n'aura pas forcément la réponse aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui nous intrigue.
Alors, parmi les questions qu'on se pose, là on vous livre tous nos désirs de recherche, on aimerait aussi établir justement un état des interdictions qui ont pu frapper la marionnette. Et parmi ces interdictions, il y a plusieurs choses à identifier. Par exemple, quel est le type d'interdiction? Est-ce qu'il s'agit d'une censure qui est préventive, donc avant l'organisation, enfin avant la tenue ou la manifestation d'un spectacle? Ou est-ce qu'au contraire, elle est répressive, c'est-à-dire le spectacle a lieu et on empêche sous une forme ou sous une autre qu'il ait lieu. Mais il y a aussi des formes de censure indirecte, évidemment, la censure économique, dont j'imagine, notamment pour la période contemporaine, on pourra reparler. Donc ça, c'est première question, c'est le type d'interdiction. La deuxième question, c'est quels sont les agents d'interdiction, à savoir de qui émane la censure, quel est le pouvoir en place qui, à un moment, impose un certain nombre de contraintes, et puis, quels sont les corps dans la société qui vont mettre en application cette censure, qui l'exerce, comment ces corps-là, ces personnes-là sont nommées, etc. Et puis enfin, dernière chose qu'il faut questionner, ce sont les moyens employés. Donc essayer un peu d'inventorier quels sont les types de censures qui ont pu frapper la marionnette. Est-ce que c'est un examen préalable, les canevas des spectacles, les textes qui sont soumis à une autorisation? Est-ce que ça aboutit à des coupes, à des transformations de propos? Et là, dans les témoignages, notamment, je le dirai tout à l'heure, de Giovanni Moretti en Italie, enfin, il y aura un exemple comme ça, où on aboutit à une transformation du propos. Est-ce qu'il y a un représentant du pouvoir pendant les spectacles? Est-ce qu'il y a des interdictions de jouer? Quelles sont les sanctions judiciaires, hein, sachant que, suivant les contextes, les marionnettistes ont pu être très malmenés, voire carrément condamnés à mort? Et puis encore une fois, donc, quelles sont les formes de sanctions plus masquées? Il y a la pression économique, mais aussi des choses plus diffuses, à savoir le fait de jouer dans certains lieux ou à certaines heures pour certains publics, qui là aussi sont des formes de censure masquées ou indirectes. Et donc là, c'est aussi pour ça que les historiens nous seront très utiles. c'est qu'il s'agit vraiment d'essayer d'analyser, enfin de repérer les sources disponibles, les procès-verbaux, la presse, les correspondances de spectateurs, enfin, il y a tout un ensemble de matériaux, et essayer comme ça de repérer quelles sont les interdictions et les effets de ces interdictions sur les spectacles, en envisageant les deux cas, à savoir dans les cas où les artistes, les marionnettistes, ont accepté ou se sont soumis à la censure, avec quels effets sur leur spectacle, mais aussi évidemment dans quelle mesure les marionnettistes ont résisté de manière passive ou frontale à ces interdictions. Et là aussi, il s'agira de voir quelles sont les formes de résistance opposées à ces formes de censure.
Donc, comme vient de le dire Julie, et comme on l'a vu à Clichy en février, les différentes notions du cycle de recherche sont arbitrairement découpées dans notre programme, puisqu'on peut très difficilement isoler l'une de l'autre. Elles fonctionnent souvent deux par deux, censure, propagande et résistance, soit comme la face et l'envers d'une même situation, soit comme la cause et la conséquence l'une de l'autre au sein d'une même situation. Bon, on reviendra là-dessus en début d'après-midi quand on abordera la situation des pays de l'autre côté du rideau de fer. On voudrait insister sur une des difficultés méthodologiques propres à notre sujet et aux précautions qui sont nécessaires. D'une part, dès qu'on recourt à des témoignages, ce qui va être le cas aujourd'hui, ce qui va être le cas tout au long de notre cycle de recherche, on a nécessairement affaire à du matériau subjectif. Or, si l'on peut penser que ces témoignages sont le plus souvent sincères, on doit aussi rester très précautionneux, voire suspicieux. Tout à fait marquant, depuis que nous avons commencé à rechercher sur ces questions et à interroger dans les différents pays, des Iraniens, des Chinois, des Tchèques, des Polonais, des gens d'un petit peu tous les pays qu'on a rencontrés, plusieurs personnes nous ont alertés sur le fait qu'il y a eu des phénomènes de pause de certains artistes qui auraient fait commerce d'une certaine victimisation, d'autant plus exagérée ou exploitée, qu'ils ont trouvé dans notre culture occidentale un public complaisant et tout à fait prédisposé, voire demandeur de ce type de récit. Donc ça, c'est vraiment une précaution méthodologique qu'on doit avoir aussi face à ces sujets. Et d'autre part, il faut rester bien conscient et critique de la charge positive ou négative dont sont investies les différentes notions abordées selon les époques et les cultures. Et comme on a pu le constater aussi à Clichy lors de la table ronde de la dernière après-midi, en France, aujourd'hui, spontanément, certains associeraient les notions de censure et de propagande à un discours systématiquement dépréciatif, allant jusqu'à exclure un spectacle avec une notion éducative, donc en l'associant à la propagande et en l'excluant du champ artistique. À l'inverse, on assiste à une glorification d'un discours sur la résistance, parfois présenté comme l'essence même de la marionnette. Or, c'est plus que douteux que l'essence même de la marionnette soit la résistance. C'est tout de même un objet manipulé dès son origine. Donc il faut vraiment être précautionneux sur ces arrière-plans idéologiques que l'on touche de toute façon. Donc pour éviter de tomber dans ces deux travers, il faudra vraiment, au cours du cycle de recherche, ne pas se contenter de collecter des points de vue, mais surtout s'efforcer d'établir des faits, de prendre le temps de faire une vraie étude, à la fois pour s'extraire de nos contingences ethnocentrées, mais aussi pour laisser le temps pour que la parole se libère dans les cas où la parole est une prise de risque. Toujours contextualiser culturellement, historiquement, et croiser, recouper les informations.
Alors, on va en venir vraiment sur les deux champs d'études qui nous occupent aujourd'hui, à savoir donc la question, cette articulation de la censure et des libertés des théâtres, qu'on a choisi d'aborder sous deux angles. Ce matin, depuis la France et concernant les spectacles adressés au jeune public, et puis cet après-midi, du point de vue donc, des têtes de marionnettes à l'est du rideau de fer. Et avant cela, je rappellerai donc deux faits qui seront nécessairement sujets à controverse, je prends le risque. Alors, premier fait, c'est qu'en général, c'est au nom du bien commun, d'une certaine idée des valeurs à partager, que sont mises en place des instances de censure et d'interdiction qui vont opposer le bon fonctionnement d'une société, le bon fonctionnement d'un collectif, à la liberté de l'individu. C'est ce qui fait qu'on assimile spontanément la censure à quelque chose de foncièrement négatif, puisque nuisible à la liberté d'opinion et d'expression, qui est la valeur suprême, hein, depuis, en tout cas en France au moins, depuis la Révolution française. Et j'aimerais quand même souligner que cette question de la censure, donc c'est aussi se dégager justement de nos fameux a priori immédiatement négatifs, la question de la censure, elle pose aussi la question des bornes qu'une société se donne, et finalement du périmètre qu'elle va assigner à ce qu'on appelle son en commun. C'est-à-dire, voilà, quelles sont les valeurs qu'on décide de partager ensemble. Et du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'absence de toute censure ne conduirait pas finalement à une autre forme de totalitarisme, savoir une société de la transparence, du matérialisme absolu, puisqu'on serait alors dans une société où il n'y aurait pas de place ni pour le sacré, ni pour le secret. Donc ça, c'est pour ouvrir aussi sur éventuellement aussi, enfin, sortir de l'a priori immédiatement négatif de la censure. Deuxième fait à rappeler, c'est que justement cette tension entre liberté individuelle et puis nécessité quand même, peut-être, d'un espace pour le sacré et le secret, ou préservation tout simplement d'un bon fonctionnement collectif, cette dialectique, elle concerne au plus haut point l'artiste, et elle va présider à ce qu'on appelle l'autocensure. C'est un terme qui est assez récent, hein, que Freud propose en 1897, donc qui est vraiment lié à notre époque moderne et contemporaine. Et il recourt à ce terme pour nommer le mécanisme psychologique inconscient par lequel il s'opère un processus de refoulement qui empêche en fait certains désirs d'accéder à la conscience. Parce que le cerveau estime que ça menacerait l'équilibre du sujet, ou parce que ça apparaît vraiment trop contraire aux interdits sociaux. Et donc le fait de l'autocensure, hein, c'est bien cette idée qu'à un moment, on a une pression qui est parfaitement intériorisée, hein, qui n'est plus imposée de l'extérieur, par une instance extérieure au sujet, mais du fait même de l'individu. Ça me paraissait important de parler d'autocensure parce que on va vraiment tourner autour de ces deux notions ce matin pour ce qui concerne le théâtre jeune public. Je vais peut-être appeler en fait nos intervenants de la matinée. Nous n'avons pas énormément de chaises, donc peut-être dans un premier temps, je vais convier Anne Crétois-Legrand, Pierre Banos et Nicolas Faure. Il y a une chaise ici à la fin. Alors, je pendant la petite. C'est pour mettre le fur et à mesure. Alors, vous avez dans le dossier les notices biographiques des participants. Donc rapidement, présenter Anne Crétois-Legrand, qui est aujourd'hui professeure documentaliste. Dans un collège, hein, voilà, il me semble. Je ne parle pas assez dans le micro. Donc, professeur documentaliste dans un collège et qui a travaillé dans le cadre d'un mémoire de maîtrise puis de DEA sur la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Et donc, nous avons tous à voir de cette commission qui existe toujours. Et ça me paraissait intéressant de voir comment, depuis les années 50, quelles ont été les évolutions de cette commission. Ce sera ensuite à Pierre Banos de prendre la parole. Donc Pierre Banos, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, qui dirige plus précisément, enfin qui encadre un master pro métier du livre, puisque Pierre Banos est non seulement l'auteur d'une thèse sur l'édition théâtrale, mais le directeur des éditions théâtrales. Et donc, son témoignage sera, voilà, quelles sont les questions de censure ou d'autocensure auxquelles peut être confronté un éditeur aujourd'hui. Et puis enfin, donc Nicolas Faure, qui est l'auteur d'une thèse sur le théâtre jeunesse contemporain, pas du tout dédié au théâtre contemporain pour la marionnette, dans le cadre de sa thèse, mais là aussi, ça m'a paru intéressant de le convier à venir nous parler des interdits ou que se fixer ou pas les auteurs. L'idée étant que par ces trois interventions, on pourra mieux jauger, identifier les pouvoirs, éventuellement les spécificités de la marionnette, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Enfin, ça sera sujet à discussion, puisque dans un deuxième temps, après ces trois interventions, nous demanderons aux artistes répondants de nous rejoindre, on verra, autour de la table, pour discuter. Et puis, conformément à la tradition de cette scène des chercheurs, il y aura un long temps d'échange avec la salle, qui sont toujours des moments riches en général.